nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Français, Anglais, Normands, Lombards se sont croisés, ont fait route vers Jérusalem pour soutenir la dynastie franque qui règne depuis près d'un siècle. Des chevaliers, des hommes, mais aussi des femmes. Et ainsi s'enrichit la série Les Inconnus de l'Histoire avec Isabelle de Jérusalem, une inconnue de l'Histoire dans une Palestine disputée aux armées de Sarrazin. Les Inconnus de l'Histoire par Jean Montalbetti, réalisation Christine Bernard-Sugy, Isabelle de Jérusalem, deuxième partie, première diffusion sur France Culture le 1er octobre 1982.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconhecidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rarezza.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire.
Elle est née en 1171. Isabelle était la jeune demi-sœur du roi Baudouin IV le Lépreux, qui résista toute sa vie aux troupes du sultan d'Égypte et de Syrie Saladin. Cette reine franque de Jérusalem fut-elle une victime de la raison d'État? Régine Pernoud nous en restitue l'attachante personnalité. Aujourd'hui, cette deuxième évocation va nous faire assister à la troisième croisade dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy et avec les voix de Pierre Tabar, de François Mestre, de Jean-Claude Drouot.
Or, il était advenu, par devance que la terre de Constantinople fut perdue, que le roi de Jérusalem était mort, que le royaume de Jérusalem était tout perdu, et qu'il n'y avait aucune ville qui n'ait résisté, Fort-Sûr et Escaloun. S'y avait le roi défunt deux sœurs mariées, s'y avait un chevalier, messire Guy de Lusignan en Poitou, marié à l'aînée, Sibylle, à qui le royaume était déchu, et messire Onfroy de Thoron avait la cadette, Isabelle. Ils s'assemblèrent un jour, tous les hauts barons de la terre et le comte de Trippe, les templiers et les hospitaliers, au temple de Jérusalem. Ils décidèrent entre eux de séparer Monseigneur Guy de sa femme, pour ce que le royaume était déchu à sa femme, et qu'il la donnasse à un autre baron, plus capable d'être roi que messire Guy n'était. C'est ce qu'ils firent. Ils les départirent, et quand on les eut séparés, ils ne se purent donc accorder à qui ils la mariassent. Ils s'en remirent à la reine Sibylle, et lui confièrent la couronne pour qu'elle la donnât à celui qu'elle voulait faire roi. Tant qu'ils se rassemblèrent un autre jour avec tous les barons, les templiers, les hospitaliers, et ce fut le comte de Trippe, qui était le meilleur chevalier du royaume, qui croyait que la dame lui donnerait la couronne, mais ce fut messire Guy, qui avait la reine pour femme. Quand ils se furent tous assemblés et que la dame tint la couronne, elle regarda à Mont et à Val. Ainsi vit-elle celui qui avait été son baron, ainsi va-t-elle avant, et lui met-elle la couronne sur le chef. Ainsi fut fait roi messire Guy. Quand le comte de Trippe vit cela, il en fut si blessé qu'il retourna en son pays, à Trippe, par mal talent. Robert de Clary.
Thank you.
Régine Pernoud, historienne du Moyen-Âge, vous êtes particulièrement intéressée à la condition de la femme médiévale. L'inconnue que vous nous faites rencontrer et redécouvrir est Isabelle de Jérusalem, la plus jeune sœur de Baudouin IV, le roi lépreux. Cette figure admirable de jeune roi à l'agonie, qui a régné entre 13 et 24 ans, et qui fait constamment reculer cet autre génie de la guerre et de l'histoire politique, qui est Saladin, le sultan d'Égypte et de Syrie pendant la même période, qui ne pourra reconquérir Jérusalem qu'en 1187, c'est-à-dire plus de 2 ans après la mort de Baudouin. Alors au cours de cet été 1187, tout semble perdu pour les Francs en Palestine. Saladin vole, on pourrait dire, de victoire en victoire. Le 3 juillet, c'est le massacre des chevaliers du Temple à Hattin, c'est vraiment la grande défaite des Francs en Palestine. Le 10 juillet, Saladin fait capituler Saint-Jean d'Acre, puis Jaffa. Le 6 août, il enlève Beyrouth. Le 5 septembre, il prend Ascalon. Et le 20 septembre, il obtient la reddition de Jérusalem, qui livre à l'esclavage 16 000 chrétiens qui n'ont pas été rachetés. Et bien entendu, les mosquées d'Omar et d'Al-Aqsa vont être rendues à l'islam. Alors désormais, le royaume franc est réduit à quelques forteresses, et son chef, Guy de Lusignan, et sa femme, la reine Sibylle, vont être définitivement écartés du pouvoir. D'ailleurs, la reine Sibylle va mourir très peu de temps après, et à partir de ce moment-là, Isabelle, après sa sœur, à moins de 20 ans, va régner sur Jérusalem. C'est grâce, on peut dire, pas seulement à la disparition de sa sœur et à la défaite de Guy de Lusignan, mais grâce à l'arrivée d'un homme providentiel devant Saint-Jean d'Acre, puis devant Tyr. Et cet homme providentiel, c'est un piémontais, et il s'appelle Conrad de Montferrat.
Oui, Conrad de Montferrat.
C'est presque un miracle.
C'est ça, c'est un de ces coups de la providence ou du sort, comme on voudra, qui amène sur place le renfort inespéré. Ayant débarqué sur un point de côte, Conrad apprend ce qui s'est passé et comment Jérusalem est tombée entre les mains de Saladin, que pratiquement c'est la fin de la Terre Sainte. Il va rester un point d'ancrage tout de même où il pourra se présenter, c'est la ville de Tyr. Conrad de Montferrat va en faire le siège assez rapidement, s'en rendra maître, et de là va repartir une conquête inespérée.
Quelle est cette personnalité et d'où vient-il ? La chronique musulmane dit de lui, c'est un homme semblable à un démon, plein de prudence, de vigilance et de bravoure.
C'est une excellente description, en tout cas suggestive, n'est-ce pas, évocatrice. C'est une famille dans laquelle la lutte contre les pirates barbaresques et les sarrasins qui infestent les mers est devenue une sorte de tradition. Son père a été donc fait prisonnier. Son frère aîné, Guillaume de Montferrat, avait été le premier époux de Sibylle, la reine de Jérusalem. Il y a lui-même Conrad et il y aura ensuite Boniface, son plus jeune frère, qui fera parler de lui au moment de l'attaque sur Constantinople.
C'est donc une grande famille lombarde.
Grande famille lombarde et une grande famille de combattants. On les trouve partout, il y a un coup de main à accomplir. Il faut ajouter que Conrad de Montferrat est un guerrier à poigne. Quand Saladin lui offre de rendre la liberté à son père, car son père, Guillaume de Montferrat, était son prisonnier, Conrad répond que son père, fut-il attaché aux murailles de Tyr, eh bien, il n'en rendrait pas un pouce pour cela, n'est-ce pas ? Autrement dit, Conrad se présente exactement tel que le souhaitaient les barons pour leur roi de Jérusalem et tel que n'était pas le malheureux Guy de Lusignan, alors prisonnier de Saladin. tire, il en fait le point de départ de la reconquête, et il va aller attaquer les musulmans dans la ville d'Acre, dans la cité d'Acre, autre point de la mer, donc abordable, et dans laquelle les musulmans, les Turcs qui entourent Saladin, ne vont pas tarder à être eux-mêmes assiégés, d'assiégeants qu'ils avaient été auparavant. Alors, les barons pensent avec raison qu'il faut retenir Conrad de Montferrat en Terre Sainte. Ils sont quelques-uns accrochés aux forteresses qui résistent encore et ils souhaitent que la couronne de Jérusalem lui soit donnée après que la mort de Sibylle ait mis fin, pense-t-il, à toute prétention de la part de Guy de Lusignan.
Alors il va y avoir un parrainage important qui va venir aider aussi Conrad de Montferrat. C'est le début de la troisième croisade car le siège de Tyr va durer plusieurs mois. D'ailleurs Saladin va assiéger Tyr où se trouve Montferrat presque pendant 6 mois entre juillet 87 et janvier 88. Et le départ pour la troisième croisade va être donné par l'empereur d'Allemagne, Frédéric Barberousse, en mai 1189, c'est-à-dire donc juste l'année d'après. Alors cette troisième croisade va réunir pour la première fois, va être un peu la croisade des rois, et va réunir pour la première fois l'empereur d'Allemagne, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, et le roi de France
qui ne peut pas faire autrement. Mais chez qui on sent que les ambitions sont ailleurs. Mais enfin, alors, ça, c'est un épisode accessoire.
Bien entendu, ce qui déclenche cette troisième croisade en 89, c'est la prise de Jérusalem de 87. L'objectif, c'est reconquérir les lieux saints.
Il y a une consternation en Occident lorsqu'on connaît cette prise de Jérusalem qui avait coûté tant de pertes et qui avait suscité l'élan de la première croisade. Et la résistance que mène Conrad à Tyr va permettre aux renforts de se constituer. Il y aura en particulier quelqu'un qui va mettre toute son ambition dans cette reconquête de Jérusalem et de la Terre Sainte en général, c'est le roi d'Angleterre, le roi Richard. Lorsque meurt son père en 189, il se fait couronner à Westminster, d'ailleurs tout à fait sous l'égide d'une femme, et une femme qui, elle aussi, va faire ses preuves et maintenir le royaume en son absence.
Aliénor d'Aquitaine.
Absolument. Donc, Aliénor ne le décourage pas, bien au contraire. Et Richard fait immédiatement faire d'immenses préparatifs. En particulier, on sait que dans la forêt de Digne, par exemple, ont été forgés 4000 fers à cheval, ce qui montre une sorte d'effort dans tout le sud de l'Angleterre. Et partout où quelqu'un peut travailler pour cette croisade, eh bien, on y travaille.
Alors, au fond, les deux expéditions de cette troisième croisade, c'est d'abord celle de l'empereur d'Allemagne, qui a mis sur pied une armée considérable.
Considérable et admirablement équipée. Par exemple, tous les postes de ravitaillement sont prévus à l'avance.
C'est une armée probablement de 100 000 hommes, on a estimé à peu près ce chiffre.
Oui, encore que les estimations chiffrées soient extrêmement difficile, mais enfin, à cette époque. Mais enfin, il reste que ce sont des estimations sérieuses d'après les sources contemporaines. Et encore une fois, tout est prévu, y compris le ravitaillement des hommes et des chevaux.
Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Jérusalem, car jusqu'à c'est ça son objectif.
Oui, et il va arriver, là encore, ce qui n'était pas prévu, à savoir que l'empereur se noie, on peut dire stupidement, dans les eaux du Selef, voulant simplement se rafraîchir. Se trouvait-il dans de mauvaises dispositions physiques? On ne sait pas. Ou est-ce un accident banal d'un fleuve qui grossit, d'un tourbillon qui l'emporte? Toujours est-il qu'il se noie et que, lui disparu, rien ne reste de sa croisade.
Alors nous sommes, lorsque Frédéric Barberousse se noie en juin 1190, l'armée allemande donc se dissout, quelques-uns arriveront tout de même jusqu'en
voilà.
Palestine.
Quelques grappes, peut-on dire, d'hommes s'accrocheront aux armées qui vont venir à l'heure, n'est-ce pas? Soit parviendront jusqu'auprès des nœuds de résistance, Conrad de Montferrat, le crack des chevaliers, etc. Et d'autres aussi se joindront aux armées qui, alors, sont en route.
Le roi Richard était d'une force terrible, d'une valeur éprouvée, d'un caractère indomptable. Déjà, il s'était fait une grande réputation par ses guerres passées. Il était inférieur pour la dignité et la puissance au roi de France, mais il était plus riche que lui, plus brave et d'une plus grande expérience dans la guerre. Sa flotte se composait de 25 gros navires remplis de guerriers et de munitions. Il s'empara en chemin de l'île de Chypre. Il arriva devant Acre un samedi 13 de Jumadi 1er.
Alors la deuxième expédition, elle n'est pas simultanée puisque elle intervient à partir de juillet 1190, c'est-à-dire un mois plus tard, un mois après la noyade de Frédéric Barberousse. À ce moment-là, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste partent chacun avec une armée de Vézelay.
Voilà.
Ce sont les frères ennemis qui se sont réconciliés pour mener la même croisade.
Mais dès le moment où Richard est devenu roi d'Angleterre, il a repris la politique paternelle. Et comme Philippe Auguste convoite pas mal de provinces qui sont sous sa mouvance, eh bien, la paix ne peut pas exister longtemps entre eux. Eh bien, des choses viendront la compliquer encore la situation. Toujours est-il que Richard et Philippe vont s'observer pendant quelque temps, un peu trop longtemps d'ailleurs, en Sicile.
Oui, ils vont rester 6 mois. Alors là, ce retard est aussi très curieux, alors que des villes comme Tyr, comme Saint-Jean-d'Acre sont assiégées.
Et les réclament.
Et les réclament.
Mais rendons-nous compte aussi que ces 6 mois, c'est le temps pour la flotte anglaise de venir par le détroit de Gibraltar, alors que Richard, impatienté, l'avait précédé et en avait profité d'ailleurs, car c'est un personnage d'une curiosité universelle et extraordinaire, en avait profité pour faire de l'archéologie dans le sud de l'Italie, ou encore explorer le Vésuve au-dessus de Naples, et même pour aller visiter un ermite fameux qui commence à faire parler de lui à l'époque, Joachim de Flore, le fameux ermite de Calabre, aux théories quelque peu vaticinantes, mais dont, paraît-il, Richard se délectait, car, encore une fois, c'est un homme qui s'intéresse à tout.
Absolument. Alors, les deux rois arrivent en ordre dispersé. Philippe Auguste débarque à Acre en avril 91, et Richard Cœur de Lion, lui, débarque en Syrie en juin.
Oui.
Et là, ils vont devoir mener conjointement un siège extrêmement important, celui de Saint-Jean d'Acre.
Et ce siège de Saint-Jean d'Acre va faire la démonstration de ce que peuvent les Francs, même en Syrie, même dans une terre aussi lointaine, même avec des forces aussi incertaines que celles dont ils disposent face à Saladin. Il faut dire aussi que les émirs de la suite de Saladin commençaient à être fatigués de la guerre, trouvaient qu'on pourrait se reposer sur des lauriers qu'ils avaient d'ailleurs durement acquis, et que finalement l'assaut sera donné et les dernières citadelles enlevées par la valeur extraordinaire de Richard, dont on dit qu'il revenait du combat comme une pelote garnie d'épingles, hérissée de flèches, n'est-ce pas, dans le dos et dans sa cotte de maille, auquel il ne prêtait aucune attention.
Quand le roi Richard fut arrivé, il fit crier par l'hoste que tout chevalier, de quelque terre qu'il fût, qui voudrait prendre ses soudés, aurait de lui 4 pesants d'or et qu'il le leur promettait ainsi. Quand on entendit cette promesse, voilà toute l'hoste en joie. Les petites gens et aussi les moyens, qui étaient là depuis longtemps, disaient, Seigneur Dieu, quand donnera-t-on l'assaut? Voilà venu le plus vaillant des rois de toute la chrétienté et le plus capable d'assaillir, que Dieu fasse sa volonté. Leur confiance était au roi Richard. Le roi de France, qui était venu depuis Pâques, et s'était très bien comporté, lui fit dire qu'il serait bon d'attaquer et de faire crier l'assaut. Mais le roi Richard était malade. Il avait la bouche et les lèvres en mauvais état d'une maladie maudite de Dieu qu'on appelle Léonardie. Il fit savoir au roi de France son mal, ajoutant que sa flotte, avec ses barons, n'était pas arrivée, retenue par un vent qu'on appelle le vent d'Arsur, qui l'arrêtait à Sûr. Que ses pierrières arrivaient, qu'elles seraient bientôt là, et que, quand ses gens seraient venus, il mettrait volontiers toute sa peine à prendre la ville. Mais le roi de France, si Dieu me protège, ne voulut point attendre pour cela, et fit crier l'assaut. Au matin, on s'arma de tous côtés, en grand désir de donner l'assaut. Vous n'auriez pu compter tous les gens armés qui étaient là, tous les chevaliers hardis et courtois. Roger de Hardincourt, proche ami du roi, ceux de Préau, aussi des compagnons du roi d'Angleterre, Garin, fils de Géraud, avec belle compagnie, le seigneur de la Mare, en bel et riche équipage, et bien d'autres que je ne nomme pas qui vinrent secourir Dieu. Les deux rois étaient dans leur lit, malades, au siège devant Acre. Mais Dieu voulait les conserver pour secourir la ville. Le roi de France fut guéri assez longtemps avant l'autre. Les pierrières sans cesser battaient les murs, nuit et jour. Le roi de France en avait une appelée Malvoisine. Mais dans Acre était mal cousine, qui toujours l'endommageait, et il la réparait toujours. Et il la répara si bien qu'elle brisa le mur principal et elle fit aussi beaucoup de dégâts dans la tour maudite. La pierrière du duc de Bourgogne faisait bien aussi son métier, celle des bons chevaliers du temple frappa main turque à la tête, celle des hospitaliers faisait des coups qui plaisaient bien à tous. Ces pierrières lançaient nuit et jour sans s'arrêter. Et il est vrai, comme nous sommes ici, que l'une d'elles tua 12 hommes d'une seule pierre, qui fut porté et montré à Saladin. Ces pierres avaient été apportées dans le pays par le roi d'Angleterre. C'étaient des galets de mer qu'il avait pris à Messine pour tuer les Sarrasins. Mais le roi était toujours dans son lit, malade et triste. Il allait voir les batailles qu'on livrait aux Sarrasins tout près des fossés. Et le chagrin qu'il avait de ne pouvoir y prendre part l'attristait plus que le mal qu'il faisait trembler. Acre fut rude à prendre. Et il fallut y dépenser beaucoup à faire tous ces engins qui y suffirent à peine. Car quand nous n'y faisions pas attention, les Sarrasins nous les brûlaient. Les Pisans, gens de grande prouesse, s'armèrent à leur tour et montèrent en haut du mur. Mais les Sarrasins leur tinrent tête. La bataille entre les Pisans et cette chienaille fut si forte et si acharnée qu'on n'a jamais vu si bien attaquer ni si bien défendre. Enfin, les Pisans furent obligés de descendre aussi. Si l'on avait mieux connu l'affaire, Acre aurait été prise ce jour-là, mais la plupart des gens de l'Ost étaient assis et prenaient leur repas. Tout avait été fait soudainement. Ainsi, l'assaut en resta là.
Alors, on a l'impression que là, qu'ils se répartissent un peu les rôles, que Philippe Auguste, c'est un peu le stratège qui met en marche ces machines tout à fait extraordinaires que sont les pierrières qui bombardent la ville assiégée, et puis que Richard Cœur de Lion, lui, il est aux avant-postes sur son cheval et que c'est un combattant extraordinaire.
En effet, il fait merveille, surtout lors des sorties. Tandis que Philippe Auguste, c'est à lui que revient l'épisode de Malcousine, n'est-ce pas ? Lorsqu'il fait bâtir une machine de guerre pour répondre à la malle voisine qu'est la machine de guerre des Sarrasins. Et puis, une nouvelle armée musulmane est venue encercler celle des Francs. Et n'ayant plus la ressource de se ravitailler du côté de la mer, les Francs vont construire le premier moulin à vent qu'on ait jamais vu en Syrie. C'est un des chroniqueurs qui le rapporte à peu près dans ces termes-là. Et les Syriens vont le prendre pour une machine de guerre, alors que c'est un paisible moulin à vent qui broie le blé pour la farine. C'est le moulin qui a été pièce de résistance dans la guerre contre les Turcs à Saint-Jean d'Acre, parce qu'il servait au ravitaillement de l'armée des Francs.
Il y avait à l'armée un homme originaire de Damas qui s'amusait par goût à manipuler le naphte et à étudier les matières propres à irriter le feu. Pendant longtemps, on l'en blâma. Et il répondait « Je n'en fais pas métier, c'est par goût que je me livre à cette étude. » Or, Dieu permit que cet homme se trouvât en ce moment-là dans la ville. Il continua d'étudier les matières inflammables, entre autres celles qui pouvaient vaincre la résistance du vinaigre et de l'argile. Quand il eut fini ses expériences, il alla trouver l'émir Karakouche, gouverneur de la ville, et lui dit « Ordonnez au chef des machines de faire ce que je lui dirai. En lançant contre les tours ce que je lui donnerai, elles prendront feu. » Karakouche était en ce moment agité par la crainte et par la colère. La peur qu'il avait de ne pouvoir tenir plus longtemps fit qu'il reçut fort mal cet homme, et lui dit « Bien d'autres que vous et des gens très habiles ont déjà échoué. » Cependant, un des assistants ayant fait observer qu'il n'y avait aucun risque à faire l'essai, que peut-être Dieu avait remis entre les mains de cet homme le sort de l'armée chrétienne, Karakouche ne fit plus de résistance. L'homme de Damas, pour tromper les chrétiens, lança d'abord sur une des tours des pots de naphte et d'autres matières non allumées qui ne produisirent aucun effet. Aussitôt, les chrétiens pleins de confiance montèrent d'un air de triomphe au haut de la tour et accablèrent les musulmans de raillerie. Cependant, l'homme de Damas attendait que la matière contenue dans les pots fût bien répandue. Le moment arrivé, il lança un nouveau pot tout enflammé. À l'instant, le feu se communiqua partout et la tour fut consumée. L'incendie fut si prompt que les chrétiens n'eurent pas même le temps de descendre. Hommes, armes, tout fut brûlé. Dieu le voulut ainsi, afin que les chrétiens brûlassent du feu de ce monde avant de brûler dans l'autre. Les deux autres tours furent consumées de la même manière. Mais cette fois, les chrétiens eurent le temps de prendre la fuite. Cette journée surpassa tout ce qu'on n'avait jamais vu. Les musulmans furent dans une joie inexprimable. Au moment que l'incendie commença, tous les regards s'étaient portés de ce côté. Les visages, de tristes et flétris qu'ils étaient, s'épanouirent de plaisir. Tous se réjouirent du secours que Dieu leur envoyait et de la délivrance de la ville. En effet, il n'y avait personne dans l'armée qui n'eût quelque parent ou ami dans Acre. Cependant, l'homme de Damas fut amené devant le sultan, qui lui offrit de l'argent et des terres considérables. Il les refusa, disant « Je l'ai fait pour l'amour de Dieu. Je n'attends ma récompense que de lui. » Cette heureuse nouvelle fut envoyée dans toutes les provinces musulmanes.
Pendant toute cette période du XIIe siècle, Pierre Aubé, pour se maintenir, les rois francs de Jérusalem doivent constamment mener des combats, mener des guerres. Quelles étaient les techniques de combat à l'époque et étaient-elles très différentes entre les armées franques et les armées musulmanes?
Ah, tout à fait différentes. Si vous voulez, nous allons séparer l'armement et la tactique pure. Le chevalier franc de Palestine au XIIe siècle diffère assez peu dans son aspect extérieur de celui qu'on peut voir au siècle précédent sur la tapisserie de Bayeux. C'est-à-dire que, ne commettons pas d'anachronisme, il n'y a pas d'armure. Il y a simplement, n'est-ce pas, un vêtement métallique de maille de fer. À cette époque, à l'époque de Baudouin, commencent à apparaître quand même les gantelets métalliques qui protègent les mains. De façon à protégé un peu des rayons du soleil, on porte une manière de tunique, n'est-ce pas? Et on porte sur la tête une manière de keffieh pour protéger des rayons du soleil. Cet armement est complété par l'épée, la lance, etc. Le chevalier est monté sur un cheval qui d'ailleurs n'est pas protégé, mais qui peut être plus ou moins habillé ou orné de tissus précieux, suivant la qualité du personnage qui le monte.
L'armement arabe est comparable?
L'armement arabe est beaucoup plus léger, et pour une raison purement de tactique, étant donné que l'armée franque attaque en phalange, serrée, et que l'armée musulmane est une armée, je dirais, volatile. On la voit et on ne la voit pas. C'est une armée d'archers qui se précipite sur les colonnes ennemies, qui décharge son carquois et qui s'en retourne. C'est l'armée, si vous voulez, qui s'est entraînée à la razzia. C'est l'armée du Bédouin, telle qu'elle existait encore dans les armées d'Ibn Seoud à la fin du XIXe siècle. Les gens de pied avaient deux sorts. En cas de la victoire des armes de la chevalerie, ils pillaient, détroussaient. C'était les techniques de la guerre à l'époque, n'est-ce pas? Ou alors, en cas de défaite, c'était le massacre. On l'a vu lors des grandes incursions de Saladin en Galilée. Lorsque l'armée franque est défaite, les hommes de pied sont massacrés.
Que fait-on des prisonniers ?
Il faut faire une différence entre l'homme de pied, qui ne représente pas grand-chose, et puis le chevalier, qui peut être l'objet d'une rançon. L'homme de pied, en général, on l'emmène en esclavage. Lorsqu'il s'agit d'un prisonnier franc, il ira terminer sa vie à Damas ou ailleurs, quitte à se convertir. Le prisonnier musulman peut être amené en Terre Sainte, peut aussi se convertir, auquel cas il deviendra un turcopole, c'est-à-dire un chevalier musulman converti au service de l'armée franque. Au cas, bien entendu, où ses anciens coreligionnaires réussissent à le faire prisonnier, alors, bien entendu, il n'échappe absolument pas au massacre. Les prisonniers de qualité, ils vont passer quelques années, quelques mois, si on paie leur rançon, ou de très longues années, si on ne la paie pas. C'est le cas de Renaud de Châtillon, qui était un personnage impossible, et qui a passé 16 années dans les prisons d'Alep, tout simplement parce qu'on ne tenait pas particulièrement à remettre en circulation un personnage qui était extrêmement encombrant.
Ce vendredi 12 juillet à midi, écrit l'historien Abou Chamin, on vit les croix et les drapeaux des Francs se dresser sur les murs. Une immense clameur d'enthousiasme s'éleva de l'armée franque, pendant que notre camp retentissait de gémissements et de sanglots. Ce fut pour nous un spectacle odieux, quand le marquis de Montferrat, entrant dans Acre, avec quatre drapeaux des rois chrétiens, en planta un sur la citadelle, un autre sur le minaret de la grande mosquée, et, c'était un vendredi, un troisième sur le Bordj à la place des drapeaux de l'islam.
Alors finalement, Saint-Jean d'Acre est emporté par Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion le 12 juillet 1191. Et à partir de ce moment-là va commencer tout de même un peu la reconquête progressive de ce royaume de Jérusalem. Mais Philippe Auguste décide de repartir très vite. Voilà. Et Richard Cœur de Lion va rester seul pour régler d'abord les problèmes de succession et puis pour s'opposer à Saladin.
Oui. Et en ce sens-là, on peut, avec l'historien René Grousset, avoir quelques regrets rétrospectifs. Si l'on se place au point de vue des croisés, il est surprenant de voir cet abandon, qui a fait très mal juger d'ailleurs Philippe Auguste, car il semble bien que les deux armées jointes auraient peut-être pu reconquérir Jérusalem. Mais déjà, on s'aperçoit que dans la mentalité générale, quelque chose a changé. Ce qui a fait la constitution des royaumes latins, ce qui a concouru à les ériger en fin du XIe siècle, ça a été la foi, alors que au début du XIIIe siècle, ou la fin du XIIe, ce n'est déjà plus la foi, c'est le commerce des épices qui va concourir à garder aux Francs une partie de la Syrie. Et finalement, la reconquête de Jérusalem ne sera jamais menée dans les faits.
Alors Philippe Auguste est pressé de rentrer en France. Richard Cœur de Lion aurait tout de même bien envie de conquérir Jérusalem. On a l'impression que c'est sa prudence qui fait que, bon, il connaît l'importance et la valeur de son adversaire, de Saladin. Il ne se risque pas. à une reprise de Jérusalem.
Alors que, à certains moments, son armée va être à une journée de marche de Jérusalem. Et là aussi, les croisés vont le lui reprocher. Pourtant, à bien examiner les faits, étant donné la valeur de l'ennemi qu'il a en face de lui et qu'il avait éprouvé et qu'il connaissait mieux que personne, on peut se demander si un simple coup de force suffisait pour reprendre ses murailles et si on n'allait pas au-devant de beaucoup de sacrifices inutiles. Mais il reste que Richard Cœur de Lion regrettera cette conquête manquée, et l'on dit que quand il arrive à cet endroit qu'on nomme Montjoie, où d'ailleurs les pèlerins s'arrêtent toujours encore en notre temps, parce que de loin, de très loin, on y aperçoit les murailles, lorsque ses familiers viennent lui dire qu'il va pouvoir voir Jérusalem, eh bien on dit qu'il relève sa cotte de maille devant son visage, et s'écrit « Beau sire Dieu, ne permet pas que je voie les murs de ta sainte cité, puisque je ne puis la délivrer des mains des ennemis. »
Finalement, avant de repartir, Richard Cœur de Lion, plutôt que de risquer une conquête de Jérusalem pour laquelle il n'était pas très assuré, préfère signer une paix de compromis avec Saladin. Alors, septembre 92, cette paix, quel est son contenu ?
On décide que Jérusalem reste à ceux qui l'ont reconquise, mais que un droit de pèlerinage sera établi en faveur des chrétiens. Et par ailleurs, les Francs gardent les places fortes qu'ils ont conquises ou reconquises ou gardées, suivant les événements, mais en particulier Acre, Tyr, et le royaume d'autrefois, le royaume de Jérusalem, sera réduit à une bande côtière d'où on espérera toujours, du côté franc, reconquérir Jérusalem. Ça va être une sorte de mirage qui va aiguiller les ambitions ou exciter l'imagination de nombre de barons occidentaux par la suite. Mais Jérusalem ne sera jamais reconquise, il n'y a pas de reconquête proprement dite.
Il y avait eu dans l'Ost une assemblée à la suite de laquelle on établit entre le roi Guy et le marquis un accord qu'on avait beaucoup souhaité. Le roi de France tenait pour le marquis et le soutenait. Et le roi Richard soutenait le roi du pays qui avait été couronné à Jérusalem. Comme il ne s'aimait pas et qu'ils se disputaient le royaume, on décida que le roi Guy resterait roi, mais qu'il partagerait entre eux toutes les terres et les rentes. Le marquis aurait immédiatement Sûr, Barut et Saët, afin d'établir une paix solide. Et s'il arrivait que le roi Guy mourût le premier, le marquis aurait la couronne, et Geoffroy de Lusignan aurait Jaffe et Escalonne. Et s'il arrivait que le roi Guy, le marquis et sa femme mourussent, alors le roi Richard disposerait du pays. Mais le marquis Conrad de Montferrat, tant qu'il vécut, porta en vie aux deux frères.
Avant de reprendre le chemin de l'Europe en octobre 1192, Richard Coeur de Lion, qui a été averti par sa mère Aliénor des visées de son propre frère Jean Santerre sur ses terres d'Angleterre, qui va donc rentrer assez précipitamment, il va avoir à régler une question importante, c'est celle de la succession. Car Sibylle, la reine de Jérusalem en titre, la sœur aînée de Baudouin IV, est morte en 90. Et maintenant, la légitimité royale est entre les mains de la plus jeune sœur, c'est-à-dire d'Isabelle.
D'Isabelle, mariée toujours avec le bel Onfroy de Thoron.
Celui qui avait fait acte d'allégeance
à Guy de Lusignan,
alors qu'il était un peu le candidat de Raymond III de Tripoli.
Et des barons aussi, de l'ensemble des barons de Terre Sainte. Qui a dû se trouver à nouveau dans un grand embarras d'ailleurs, parce qu'il a dû sentir ce qui se tramait autour de lui. Et puis enfin, son épouse Isabelle possédait des droits absolument certains, légitimes, reconnus. Alors une idée a germé parmi ces barons rassemblés. Isabelle se devait de divorcer avec son bel Onfroy et d'épouser l'homme fort, celui qui s'était présenté, Conrad de Montferrat. Isabelle a juré ses grands dieux d'abord que jamais qu'elle n'en ferait rien. En fait, c'était dramatique pour elle, car elle aimait énormément son époux. Et on peut se fier là-dessus aux chroniques contemporaines qui la décrivent désolée, mais elle n'avait probablement pas la même force de caractère qu'une Jeanne Plantagenet. Et de plus, il y avait sa mère qui tentait de la convaincre. Et à ce moment-là, il y a de véritables intrigues de cour, des camarillas qui s'affrontent. Et Isabelle sera conduite à divorcer. Mais tout le monde ne va pas approuver, d'ailleurs, ce divorce. Le pape va protester violemment, n'admet pas les manières brutales de...
Même un divorce pour raison d'État.
Voilà, ça n'a jamais été encaissé par la cour pontificale. Et il a fallu qu'il y ait à Jérusalem des prélats complaisants, n'est-ce pas, pour passer outre. Et puis, mon Dieu, il y avait aussi la distance. On pouvait prétexter que l'interdiction n'était pas encore parvenue, etc. Toujours est-il que Conrad de Montferrat profite de la situation et qu'il épouse Isabelle.
Le marquis de Montferrat essayait, par de hauts hommes et par son argent, de se rendre maître du royaume. Il fit tant, il travailla si bien par ses machinations, qu'une sœur de la reine qui venait de mourir, femme de Onfroy de Thoron, un des plus hauts barons du pays, fut séparée de son mari et qu'il la prit pour femme, en promettant que ses forces rejoindraient l'Ost à Acre. Il l'épousa dans sa maison, contre Dieu et contre droit. L'archevêque de Cantorbéry en fut très irrité. Mais l'évêque de Beauvais les maria. Il eut grand tort, car le marquis avait déjà deux épouses, deux belles et jeunes dames. L'une, belle et noble dame, était à Constantinople, l'autre était dans son pays, et il en prenait une troisième. C'est pourquoi le bon archevêque et d'autres clercs et évêques s'opposèrent à ce mariage, l'excommunièrent, et ne craignirent pas de dire qu'il avait fait un triple adultère et que Dieu n'était pas présent à une telle union et à de telles noces. Quand le marquis eut épousé celle qu'il désirait depuis si longtemps, il fit ses noces et ses festins. Il avait maintenant trois femmes vivantes, une dans son pays, l'autre avec lui, et encore la troisième en réserve. D'un tel mariage devait venir du mal.
Conrad de Montferrat ne va même pas être couronné roi de Jérusalem, car il va être assassiné avant même justement cette consécration qu'il attendait depuis longtemps.
Oui, on verra là, n'est-ce pas, certaines, à la cour pontificale, notamment on y verra le châtiment, la mauvaise action commise. Conrad, s'il est attendu par les barons francs, est redouté par les ismaéliens en particulier, une secte chiite, n'est-ce pas, parmi les musulmans, et qui a l'habitude, la réputation de savoir se débarrasser élégamment par le poignard ou par le poison des personnages qui se trouvent sur son chemin et qu'elle estime gênant.
C'est la secte des assassins ou hachichins.
Hachichins, mangeurs de hachich. C'est très curieux de voir que la drogue intervient dès cette époque, car effectivement, le chef de la secte entretenait des jeunes gens qu'il droguait, n'est-ce pas, et qui devenaient ses hommes de main.
C'est ça, et pour lesquels la vie humaine n'avait plus aucune valeur, puisqu'ils étaient aussi bien capables de tuer que de se donner la mort.
Absolument, ce sont des êtres, nous dirions dans notre vocabulaire, aliénés.
Conrad de Montferrat, dans sa bonne ville de Tyr, se préparait à ceindre cette couronne royale, objet depuis si longtemps de son âpre convoitise, et qui d'ailleurs, reconnaissons-le, ne pouvait aller à un meilleur chef. Ce fut alors qu'un drame inattendu vint tout remettre en question, y compris les destinées de la Syrie franque. Quelques semaines plus tôt, Conrad avait fait jeter à la mer des trafiquants qui se trouvaient appartenir à la secte des assassins. Cette redoutable société secrète musulmane qui professait dans le sein de l'islam une doctrine profondément hérétique et qui, pour parvenir à ses fins, recourait au terrorisme contre quiconque, musulman ou chrétien, osait lui tenir tête. En apprenant l'exécution de ces gens, le grand maître des assassins, le ténébreux Sinan, de son nid d'aigle de Cadmus dans les monts Alaouites, demanda satisfaction à Conrad. Conrad ne lui répondit pas et n'y pensa plus, tout occupé qu'il était des préparatifs de son couronnement. Un soir, le 28 avril 1192, comme sa jeune femme, la princesse Isabelle, s'attardait au bain, lassé de l'attendre, il alla s'inviter à dîner chez son ami l'évêque de Beauvais. Il sortait après dîner de l'hôtel du prélat, lorsque dans les ruelles étroites du vieux Tyr, il fut rejoint par deux sicaires de Sinan, qui, pour donner le change, venait de se faire conférer le baptême. Ils lui tendirent un placet qu'il accueillit sans méfiance. Tandis qu'il le lisait, l'un d'eux lui plongea un poignard dans le flanc. Il expira presque aussitôt.
Donc, à nouveau, le problème de la succession se trouve posé, et la solution, c'est encore Richard Cœur de Lion qui va la trouver.
Oui, elle va être trouvée, séance tenante, parmi les croisés fraîchement débarqués. Il y a un très beau chevalier champenois. Ce chevalier champenois, c'est Henri II, le neveu de Richard. Enfin, presque son neveu, neveu par sa mère en tout cas, fils d'une des filles qu'Aliénor avait eue de son premier époux, le roi de France. Et on lui propose tout à trac d'épouser Isabelle. Il n'en est pas autrement enchanté. Il a pris la croix avec l'idée de faire un pèlerinage en Terre Sainte et d'y passer, mon Dieu, probablement le temps de la guerre féodale. On devait 40 jours à son suzerain et après, on s'en va. Il n'avait pas du tout l'intention de rester en Terre Sainte. Et son beau domaine de Champagne, on comprend qu'il pu le regretter quelque peu. Mais enfin, les circonstances pressent.
Puis il y a aussi un obstacle, tout de même. C'est que Isabelle est enceinte.
Est enceinte de Conrad. Et comme il le déclare dans son langage direct, n'est-ce pas, au cas où l'enfant qu'elle porte est un garçon, c'est lui qui portera la couronne de roi de Jérusalem, et moi je resterai encombré de la dame, dit-il. Ce qui n'était pas très courtois, mais tout de même pratique. Le chroniqueur s'empresse d'ajouter que d'ailleurs, quand il fut en présence de la dame, eh bien, ses sentiments évoluèrent aussitôt et qu'il en fut enchanté et charmé, car elle était merveilleusement charmante.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur une princesse franque de Palestine à l'époque de la Troisième Croisade, Isabelle de Jérusalem par Jean Montalbetti, médiateur Régine Pernoud, consultant Pierre Aubé. Les textes extraits de la chronique de Robert de Clary sur la conquête de Constantinople, de l'histoire de la croisade par Ambroise et de l'histoire des croisades par Serge Grousset ont été dits par François Mestre, Jean-Claude Drouot et Pierre Tabard. Recherche de documentation, Catherine Montalbetti. Prise de son, Daniel Labigne. Mixage, Guy Senot. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.
Cette émission, la deuxième d'une série de trois, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 1982. vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Quero comer, quero mamar, quero preguiçar. Quero querer, quero sonhar, felicidade. É o amor, é o calor, a cor da vida. É o verão, meu coração, é a cidade.
Eu quero.